française.
Latina.
La franco-latina.
Hola, ¿qué tal?
Salut.
Bienvenue sur le boulevard Franco-Latino, encore une fois en direct de la Maison de l'Amérique latine, pour parler bien sûr de l'Amérique latine, de la France, de ses chances, de toutes ces rencontres qui nous plaisent tellement. Nous nous retrouvons ici, vous savez, une fois tous les 15 jours, une fois en espagnol, une fois en français. Aujourd'hui c'est en français, ça aurait pu être aussi en arabe, ça aurait pu être en espagnol, mais enfin, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Nous allons parler d'une pièce de théâtre qui, théoriquement, tout au moins dans l'histoire, se passe pas très loin d'ici. Vous avez à Paris, la Maison de l'Amérique latine se trouve au métro Solferino, et quelques mètres plus loin, il y a un autre métro, qui est le métro Assemblée nationale, Chambre des députés, et c'est là que tout se passe. Enfin, on en reparlera tout de suite après. La musique, cette semaine, la musique qui accompagne notre début, l'intro de ce qu'on pourrait appeler l'introduction du boulevard, c'est Yamandu Costa, c'est un guitariste brésilien. Le thème que nous écoutons et qui nous accompagne en ce moment s'appelle El Negro del Blanco. C'est un grand guitariste, Yamandu Costa. Retenez bien ce nom. Comme d'habitude, Bertrand Boeuf est dans les contrôles. Grâce à lui, vous nous entendez tous là où vous êtes, en France, en Amérique latine. Et bien entendu, c'est avec lui que nous allons continuer après à écouter d'autres musiques. Il y a au menu le groupe Calle 13, ce sont des Portoricains excellents. Il y a Buica et Chucho Valdés, ils sont fait un passage éclair par Paris. Elle, c'est une Africaine qui chante flamenco, elle est installée en Espagne. Ils viennent de faire un disque de boleros avec Chucho Valdés, c'est une pure merveille. Et puis voilà, plein de musique, et pour l'instant, nous allons accueillir notre invité. Notre invité, il vient de loin, ça on peut le dire au propre et au figuré. Bonjour Adel Hakim, vous êtes né au Caire,
oui,
en 53. Vous êtes parti après vivre au Liban pendant quelques années,
oui,
jusqu'à 19 ans
à Beyrouth,
apparemment, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça, voilà. Oui, oui.
Donc après la France...
Je suis venu en France, oui, j'avais 19 ans pour poursuivre... des études supérieures.
Parce que j'ai vu qu'avant le théâtre, effectivement, vous avez fait une licence de maths, HEC, un doctorat de philo, et tout ça mène au théâtre.
Eh oui, oui, oui. Au fond, le théâtre, c'est une conjonction de recherche, comme ça. De... Oui, oui, je voulais être chercheur au départ. Et le théâtre, c'est le meilleur endroit pour faire de la recherche, je pense. On n'arrête pas de découvrir des choses, de rencontrer des gens, de se poser des questions, d'imaginer des façons pour produire des spectacles, pour jouer, pour mettre en scène, pour écrire. Et c'est ça qui me passionne, oui, oui. Et donc, au fond... Après beaucoup de détours, j'ai fait exactement ce que j'avais envie de faire, même si ça a pris du temps. Et...
Toutes ces compétences-là, comme on dit maintenant dans les métiers, aident justement à compléter, pour ainsi dire, le côté artistique. Il faut dire que vous êtes actuellement... Entre autres activités nombreuses, est directeur depuis 92, c'est
oui,
ça
oui,
du
oui.
Théâtre des quartiers d'Ivry. Donc oui. J'imagine qu'il y a toute une partie de gestion aussi
oui, c'est vrai.
Qui vient oui. s'ajouter oui. à l'activité artistique.
Oui, je crois que dans le théâtre, il y a une part d'organisation, hein, que ce soit dans le plateau, autour du plateau, au-delà du plateau... il me semble que tous les metteurs en scène ont besoin d'organiser quelque chose, d'organiser avec les gens, avec les autres. Hein. Moi, je suis très attaché à l'utopie théâtrale qui consiste à rassembler des gens, les acteurs, les techniciens, les décorateurs, les costumiers, l'équipe de relations publiques qui est très importante, l'équipe administrative. Tous ces gens sont rassemblés au théâtre autour d'une utopie. d'une utopie esthétique, politique, de transmettre des idées, de dialoguer avec le public. Voilà, tout ça, c'est un ensemble qui a besoin d'être maîtrisé d'une certaine manière. Alors, on pourrait dire gérer, mais j'aime pas beaucoup le mot, mais d'être maîtrisé collectivement. Et donc, oui, les études que j'ai pu faire, y compris de gestion, que j'aimais pas beaucoup, hein, j'aimais pas beaucoup les études à HEC, c'est comme ça. C'est pour ça que j'ai décidé de faire autre chose. Mais finalement, ça m'a servi, bien sûr. Ouais, oui.
Bien, et si c'est donc d'Ivry que vous êtes arrivé un jour au Chili, ça rime, ça réunit. Nous allons en parler juste après, et après avoir écouté une première chanson. C'est un groupe portoricain qui, lui, fait une collaboration avec un groupe mexicain. Les portoricains sont ceux de Calle 13, les mexicains sont ceux du Café Tacuba, et ensemble, ils chantent un thème que vous allez certainement aimer, vous allez peut-être danser, ça s'appelle « Todos menos tú ».
Caballos, gallinas, ovejas y vacas. Hay muchos animales con mucha gente. Personas cuerdas y locos de mente. En el mundo hay mentiras y falsedades, hechos, verdades y casualidades. Hay mentalidades horizontales, verticales y diagonales. Derrotas y fracasos accidentales, medallas, trofeos y copas mundiales. En el mundo hay vitaminas y proteínas, marihuana, éxtasis y cocaína. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores. En el mundo hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas, hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes, hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes, hay 6,000,000,000 de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante, pero no hay nadie como tú. Tanques de oxígeno, tanques de guerras, el sol y la luna nos dan energía. Se duerme de noche y se vive de día. Hay gente que rectifica lo que dice, hay mucha gente que se contradice. Hay algarrobas y algas marinas, hay vegetarianos y carnicerías. Hay tragos amargos y golosinas, hay enfermedades y medicinas. Hay bolsillos llenos, carteras vacías, hay más ladrones que policías. Hay religiones, hay ateísmo, hay capitalismo y comunismo. Aunque nos parecemos, no somos los mismos. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú. Sin ropa, sexo en pijamas. Hay cosas reales y melodramas. Hay laberintos y crucigramas. Existen llamadas que nadie contesta. Hay muchas preguntas y pocas respuestas. Hay gente valiente, gente con miedo. Gente que el mundo no le importa un bledo. Gente parada, gente sentada. Gente soñando, gente despertando. Hay gente que nace, gente que muere. Hay gente que odia, hay gente que quiere. En este mundo hay mucha gente. Pero como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor.
nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie como tú.
Vous avez peut-être corrigé de vous-même, c'était « No hay nadie como tú ». Pas « todos menos tú », c'était pas pareil. Hein. Même si je pourrais éventuellement demander à Silvio Rodríguez sa fameuse phrase « No es lo mismo, pero es igual ». Bien, sur le boulevard Franco-Latino, en direct de la Maison de l'Amérique latine, à Paris, nous sommes avec Adèle Hakim. Adèle Hakim, qui, entre autres choses, je vous le disais tout à l'heure, dirige actuellement les théâtres des quartiers d'Ivry. Et c'est comme ça que vous êtes tombé sur un voisin.
Ah oui.
Sur un voisin.
Oui, oui.
Comment
est-ce
qu'on dit
longtemps.
Ivrien.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Donc, Oscar Castro, qui dirige, lui, le théâtre Aleph. Et bon, le hasard des rencontres a fait non seulement qu'on est voisin, mais que moi, j'ai beaucoup travaillé au Chili. Mmh. À Santiago, avec différentes institutions là-bas. Et évidemment, ça nous a rapprochés puisque Oscar est chilien.
Et, mais vous aviez travaillé au Chili avant même de rencontrer Oscar.
On se croisait. Moi, j'allais voir les spectacles au Théâtre Aleph, que j'aimais beaucoup l'ambiance là-bas. Mais c'est vrai que le fait de travailler à Santiago, ça nous a donné des centres d'intérêt et de discussion communs beaucoup plus forts.
Avant qu'on en revienne à Oscar et à votre collaboration déjà sur Ivry, et comment c'est venu avec le Chili? Vous êtes depuis 97, j'ai vu que
oui.
vous avez commencé à travailler avec surtout le Chili. Vous avez fait aussi un montage en Uruguay.
Oui, j'ai travaillé aussi en Argentine, au Mexique, un peu au Pérou. C'est en fait tout est parti d'un colloque qui a été organisé par l'ambassade de France avec l'Université catholique de Santiago sur les auteurs, sur les dramaturgies françaises et chiliennes. Et donc moi, je faisais partie de ce voyage avec de nombreux autres auteurs et metteurs en scène français comme Christian Schiaretti, Christian Rullier, Roland Fiché, Michel Azama. Voilà, on était quelques-uns comme ça à faire partie du voyage. Il y a un livre qui a été édité sur les dramaturgies françaises à cette occasion en 97. Et il y a eu toute une série de rencontres avec des auteurs et metteurs en scène chiliens comme Ramon Grifero,
Galimiri aussi.
Benjamin Galimiri qui en était, oui, bien sûr. Et à la suite de ce premier séjour, bon, c'était des conférences, des colloques, Hector Noguera a monté un de mes textes. Exécuteur 14, qu'il a donné en lecture à cette occasion aussi et qu'il a monté par la suite. Donc c'était d'abord une lecture, ensuite un montage qui jouait ce texte. Et l'Université catholique, l'école qui était dirigée à l'époque par Ramon López, m'a demandé de venir donner des cours et faire un travail avec les élèves de quatrième année de l'école de théâtre de l'Université catholique. Donc ça a commencé comme ça. Après, j'ai fait une mise en scène au Teatro Camino, qui est dirigé par Hector Noguera, de La controverse de Valladolid.
De Jean-Claude Carrière,
voilà. Et puis, d'année en année, je suis tous les ans pratiquement, pendant 6 ou 7 ans, retourné au Chili travailler. à l'université catholique pour faire des egresos, des spectacles de sortie des élèves de l'école de théâtre. Au Théâtre National aussi, dirigé par Raúl Osorio, j'ai monté deux pièces de Benjamin Galimeri, Déjala sangrar et Los Principios de la fe. Et puis ils sont venus aussi, il y en a beaucoup qui sont venus en France, au Théâtre des Quartiers d'Ivry.
Galimeri notamment, il est venu pour tout un hommage.
On a monté cinq pièces de Benjamin Galimeri au Théâtre des Quartiers d'Ivry à l'intérieur d'un festival qu'on avait nommé Quetal. Et qui était sur les écritures d'Amérique latine, où il y avait aussi le Vénézuélien Gustavo Hoth, il y avait Daniel Veronese d'Argentine, Eduardo Pavlovski, une découverte des auteurs latino-américains.
C'est facile la pratique de la mise en scène lorsqu'on se retrouve ailleurs avec d'autres acteurs, c'est une autre langue ou c'est plus facile qu'on l'imagine? Comment ça se passe?
Ça m'intéressait beaucoup de rencontrer les acteurs latino-américains parce que c'est une autre forme de théâtre, c'est une autre forme d'investissement de l'acteur dans la représentation. Je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre.
Quelle est la différence?
Disons qu'au départ, les acteurs français réfléchissent beaucoup. C'est une rigueur de réflexion sur le texte, sur comment dire le texte, sur la signification des choses. Et je me suis rendu compte que en Amérique latine, c'est d'abord l'investissement corporel du texte. Ça passe d'abord par le corps. Et chacun des deux systèmes a son avantage et son désavantage. Le système français, c'est que ça met beaucoup de temps à investir le corps et donc les spectacles peuvent être un peu figés, un peu intellectuels, disons. Et en Amérique latine, le travers qu'il peut y avoir, c'est que ça peut partir dans tous les sens et être un peu désordonné. Le travail après du metteur en scène, dans un cas, c'est de pousser plus les acteurs à libérer l'énergie physique sur le plateau et avec les acteurs latino-américains à cadrer, disons, et à mettre de la rigueur. Mais les deux choses sont extrêmement intéressantes, c'est passionnant.
Et vous-même, vous allez vous demander, parce que l'homme de racine égyptienne, un passage au Liban, mais l'homme de théâtre est plutôt formé en France, qu'est-ce qui vous convient le plus?
Moi, j'aime bien le théâtre qui pulse, quoi, où il y a à la fois une pensée rigoureuse, donc ça, c'est ma formation rationnelle ici en France, et en même temps, il n'y a de vie sur le plateau que lorsqu'il y a des choses qui échappent et qui surprennent les acteurs eux-mêmes et le metteur en scène et donc le spectateur. Donc voilà, c'est cette alliance toujours que tout le monde, je pense, cherche dans le théâtre, pas seulement moi. Nous cherchons tous ça. Et après, les ingrédients culturels, soit sud-américains, soit français, font qu'il y a à travailler plus sur tel aspect ou tel aspect. Mais j'aime bien les deux.
Alors, à propos d'alliance, elle s'appelle Buika, elle est venue d'Afrique, ses parents se sont installés quand elle était toute jeune en Espagne. Et puis là, elle s'est éprise, comme on dit, de chant flamenco. Elle chante, elle a une voix comme ça, c'est une chanteuse flamenco, mais les racines africaines, les couleurs d'Afrique sont là dans la voix. Vous allez la voir, vous allez l'entendre. Et là, et à propos des rencontres, elle est avec un autre qui a des racines africaines, mais qui, elles, sont de Cuba. Il s'appelle Chucho Valdés, il est pianiste. Et tous les deux, ils reconstruisent ces monuments de la chanson latino-américaine qui s'appelle Somos.
imposible que busca la noche para ocultarse en las sombras del mundo y de todo. Somos en nuestra quimera doliente, querida, dos hojas que el viento junto en el otoño. Ay, somos dos seres en uno que amando se muere para guardar en silencio lo mucho que quiere. Pero qué importa la vida con esta separación. Somos dos gotas de llanto en una canción. ¿Qué más da si eso fuimos?
Elle s'appelle Buica et lui s'appelle Chucho Valdés. Ils étaient ensemble ici dans notre boulevard franco-latino en direct de la maison de l'Amérique latine où nous sommes avec le comédien, metteur en scène, auteur Adel Hakim. Adel Hakim donc qui après ses rencontres en général avec le théâtre chilien finit par rencontrer un Chilien qui n'était pas là-bas, mais qui était ici, et juste à côté, à Ivry, Oscar Castro et sa troupe de la Lef, qui est aussi depuis assez longtemps là-bas.
À Ivry, oui, oui, je crois que depuis une dizaine d'années, et ils sont installés à Ivry, oui, oui. Et donc voilà, il y a l'activité du théâtre à Lef, qui est très axée sur l'Amérique latine, puisque c'est Oscar qui écrit les textes en général et qui les met en scène. Sylvie Miqueux qui dirige les chorégraphies, etc. Et c'est un lieu d'activité important à Ivry parce qu'ils ont aussi beaucoup d'ateliers de chant, de danse, de théâtre à l'intérieur de la Lef. Et c'était logique, disons, qu'à un moment, on se rencontre à cause de mes voyages en Amérique latine, mais aussi à cause de notre proximité.
Est-ce que, aussi bien eux que vous-même au Théâtre des Quartiers d'Ivry, vous avez un travail qui est assez enraciné avec la communauté autour.
Oui, très. Oui. Alors, nous, on a un atelier théâtral pour les amateurs, pour les adultes, les enfants et les adolescents. Il y a 200 personnes toutes les semaines qui fréquentent cet atelier. Il y a une dizaine de professeurs, donc vous voyez, c'est une activité très importante à laquelle la municipalité évidemment tient beaucoup, et c'est une des particularités de notre centre dramatique national, puisque le théâtre des quartiers d'Ivry est un centre dramatique national, c'est de faire ce travail avec les amateurs, et les travaux sont présentés au mois de juin au théâtre Antoine Vitesse sur deux week-ends où on montre au public ce qui a été fait tout au cours de l'année.
Est-ce que c'est une question qui n'a pas forcément de rapport avec la pièce, avec ce dont on va parler tout de suite, mais est-ce que aujourd'hui les gens, les Ivriens et les autres ont envie de faire du théâtre? Il y a des amateurs qui ont envie. Est-ce que vous allez chercher les gens ou il faut plutôt refuser du monde?
Non, on refuse beaucoup de monde. Et c'est pour ça que d'ailleurs le théâtre Aleph aussi a des ateliers amateurs. On n'est pas du tout en concurrence. Nous, on refuse beaucoup de monde et peut-être eux aussi, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours plein, ces ateliers. Le théâtre est loin d'être mort, il est très très vivant, partout d'ailleurs, pas seulement à Ivry. Après, à Ivry, il y a une tradition très ancienne de théâtre, puisque le théâtre des quartiers d'Ivry a été fondé dans les années 70 par Antoine Vitesse, et depuis, ça n'a pas arrêté. Et du coup, les Ivriens sont très sensibles au théâtre en général. Ils viennent beaucoup, et c'est vraiment un théâtre à la fois parisien, parce que c'est au métro Mairie d'Ivry, donc c'est
à côté.
Oui, on est limitrophe de Paris. On a, mettons, la moitié du public qui est parisien, la moitié du public qui est ivrien ou du Val-de-Marne ou de Vitry, des communes proches d'Ivry.
Alors, vous parliez du métro Mairie d'Ivry, mais la station du métro qui nous convoque, c'est le métro Assemblée nationale.
Voilà.
Parce que c'est là que tout se passe. C'est là que les deux personnages de la pièce, donc la nébuleuse vie de José Miranda, se retrouvent enfermés toute une nuit.
Voilà. Donc, il faut rappeler que c'est Oscar Castro
qui a écrit la pièce. Que vous êtes
on a beaucoup parlé autour de la pièce, et puis comme la pièce était en cours d'écriture, à un moment, on s'est dit que ce serait bien qu'on joue ensemble, lui et moi, des protagonistes. Et ça a évidemment orienté l'écriture d'Oscar. Et la pièce, c'est deux amis, José Miranda et Adèle Hakim, qui se rencontrent dans la station Assemblée nationale parce qu'ils sont allés à la cérémonie d'un autre ami à eux qui s'appelle Jean-Claude, qui est député, qui prend sa retraite. Et ils viennent de la cérémonie et ils ont raté le dernier métro. Ils sont enfermés dans le métro. Et tout va se passer dans la station de métro Assemblée nationale. Donc, il y a évidemment, comme souvent dans les pièces d'Oscar, beaucoup de références à la démocratie, qu'est-ce qui reste de la démocratie, dans quel état elle se trouve, etc. Et il va se révéler qu'un de ces deux, donc celui qui s'appelle Adèle Hakim, en fait, n'est pas Adèle Hakim, mais est le diable. Et c'est le diable qui est chargé de faire un procès de cet auteur qui s'appelle José Miranda, et dont peut-être le pseudonyme serait Oscar Castro, d'ailleurs. Voilà, c'est toute une
mise... Ça a été une coquetterie que de ne pas s'appeler Oscar Castro.
Et... Voilà, et donc c'est toute une mise en abîme, comme ça, entre la réalité, la fction. C'est très pirandellien, cette pièce. Et c'est le procès de cet auteur qui écrit des pièces qui se veulent révolutionnaires, révolutionnaire, et c'est sur le sens de cette écriture, le sens de la révolution aujourd'hui, et c'est une pièce fantastique en même temps. C'est là où elle est très belle, ça fait penser à Kafka, au procès de Kafka, puisqu'il s'agit effectivement d'un procès dans lequel on va découvrir comme les cercles de l'enfer, hein, les cercles de Dante, avec des personnages, d'autres personnages qui vont traverser cette histoire, la mère Teresa, entre autres, une ancienne cocotte de l'époque de la Commune de 1871, de la Révolution, des Révolutions françaises, et puis toute une brigade, disons, qui entoure le diable et qui vont être chargés de mener le procès. Ça se joue avec sept acteurs, deux acteurs, Oscar et moi, et cinq autres actrices qui vont aller aussi dans le sens des délires et des fantasmes d'Oscar, c'est-à-dire qu'il va y avoir un bordel de la Commune, ce sont des sbires du diable, mais très tentatrices, très sexy, comme toujours chez Oscar.
Et chez le diable aussi.
Et chez le diable aussi. Et c'est une remise en question de la vanité, de la culpabilité de ce personnage de José Miranda, qui est un peu chacun de nous, au fond.
Au fond.
C'est un homme ordinaire, pour lequel on va faire un procès fantastique. Et ça va mal se terminer, ça va se terminer en tragédie, après beaucoup de rebondissements malgré tout comiques.
Avec Yamandou Costa et ce thème qui s'appelle « Ma foi » ou « Ma fua » comme vous voulez, on va feuilleter les pages de notre agenda franco-latina. Il s'agit, vous savez, dans cette édition, surtout des spectacles, des manifestations qui ont lieu en France. À commencer par le 18e festival Don Quixote qui se tient jusqu'au 28 novembre prochain. C'est organisé par l'Institut Cervantes. Il y a un concert de musique colombienne avec Maria Mulata. Tout se passe, je vous l'ai dit tout de suite, au Café de la Danse, du côté du métro Bastille. Et je vous l'ai dit tout de suite aussi, le concert de Maria Mulata a l'air complet. Mais il faut savoir que ça se passe donc vendredi 20 novembre. Samedi 21 novembre, c'est du théâtre colombien aussi, avec le groupe Mata Candelas, qui propose une soirée, une velada métaphysique, une soirée métaphysique autour de l'œuvre de Fernando González. Jeudi 26, il y a du théâtre vénézuélien avec le Rio Teatro Caribe qui présente la pièce Sueño Pelele. Et tout ça se passe donc au Café de la Danse. Je vous rappelle tout de suite que pour tous les détails, il vaut mieux aller sur le site de la Franco Latina, www.lafrancolatina.com, parce que là, vous aurez tous les détails pratiques qui seraient trop ennuyeux de vous les donner maintenant. Je voudrais vous dire que le 25 novembre, il y a au Théâtre de la Ville de la musique brésilienne avec Renata Rosa et accompagnée de polyphonie Cariri Choco. Renata Rosa, c'est une nordestine initiée depuis toute jeune à la samba de coco, ciranda, toadas, cavallo marinho et autres foros. Et puis, elle a commencé à fréquenter le Cariri Choco, qui sont des indigènes qui sont sur la rive sud du fleuve São Francisco et qui ont un système de polyphonie très particulier que vous pourrez entendre donc au Théâtre de la Ville le 25 novembre. Renata Rosa et les polyphonies Cariri Choco du Brésil, bien sûr. Il n'y a pas que Paris dans la vie, évidemment. Et jusqu'au 5 décembre, l'association Colores propose à Lille, dans le Nord, aussi bien dans la ville de Lille que dans la ville toute proche de Villeneuve-d'Ascq, les Journées Colores. Cette 9e édition est consacrée aux femmes. Il y a un cycle de cinéma qui s'appelle « Quand les femmes parlent », où on trouve des films aussi anciens de classiques merveilleux comme le vieux film cubain Lucia de 1968 de Humberto Solas, des films plus récents comme Made in USA de Claudia Llosa. Il y a une exposition de portraits des femmes indiennes du Pérou, des conférences groupées autour d'un sujet Amérique latine, les femmes en résistance. Et ça se termine en général le 5 décembre par ce qu'ils appellent les villages colores, qui est une sorte de village qui se construit du côté de la place de la République, là à Lille. Et les soirs, évidemment, il y a la fête avec une troupe, comme il faut, féminine, qui s'appelle Yemanja. La troupe Yemanja, qui est une troupe de filles qui font de la salsa. Tout cela se passe jusqu'au 5 décembre, aux Journées Colores, à Lille. Et plus proche de d'où nous sommes, notamment à la Maison de l'Amérique latine, dans le cadre de la manifestation Paris Banlieue Tango 2009, vendredi 20, il y a une conférence sur les origines noires du tango qui est donnée par le pianiste, compositeur et chanteur argentin Juan Carlos Cáceres, qui évidemment va illustrer ses propos avec la musique. Ça fait partie, je vous le disais, de cette manifestation qui s'appelle Paris Banlieue Tango, qui est très riche en activités diverses, concerts, ateliers, rencontres, débats, etc. Une fois de plus, je vous invite à consulter les pages de la Franco Latina pour avoir des détails sur toutes ces manifestations. Maintenant, je vous propose, avant qu'on revienne à Ivry, avant qu'on revienne à la station du métro Assemblée nationale et à la pièce qui commence demain, donc avec Adèle Hakim, notre invitée, on va partir, on va essayer de partir à Disneylandia. Oui, c'est ça, Disneyland. C'est une chanson de l'Uruguayen Jorge Drexler, une très belle chanson sur les aléas des migrations.
En Argentina con una pintora judía, se casa por segunda vez con una princesa africana en México. Música hindú contrabandeada por gitanos polacos se vuelve un éxito en el interior de Bolivia. Cebras africanas y canguros australianos en el zoológico de Londres. Momias egipcias y artefactos incas en el Museo de Nueva York. Linternas japonesas y chicles americanos en los bazares coreanos de San Pablo. Imágenes de un volcán en Filipinas salen en la red de televisión de Mozambique. La ra 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 ra. Naturalizados en Chile, buscan a sus familiares en Etiopía, casas prefabricadas canadienses, hechas con madera colombiana, multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong y producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano, literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea, relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. La ra 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 ra. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes, huidos de la guerra, no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia.
Para entrar en Disneylandia, para entrar en
Disneylandia.
En Disneylandia.
Disneylandia, vu par Jorge Drexler, un chanteur uruguayen que vous avez intérêt à découvrir parce que ça fait partie des nouveaux visages de la chanson et de la musique populaire d'Amérique latine que, évidemment, vous pouvez découvrir ici, dans le boulevard franco-latino, que vous découvrez évidemment dans notre radio, qui a, vous savez, une programmation musicale avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui et beaucoup plus. Nous allons, juste avant de retrouver Adèle Hakim, vous raconter qu'il y a bientôt la sortie d'un nouveau film, d'un film chilien qui s'appelle El Guacho. Non, ça s'appelle même pas El Guacho, ça s'appelle Guacho tout court. C'est un film qui raconte la vie d'une famille paysanne du sud du Chili. Et il a la particularité, entre autres choses, d'être un film qui, un peu dans le style de l'argentin Carlos Sorin, est un film fait avec des acteurs amateurs. Et apparemment, c'est vraiment, je vous dis apparemment parce que je ne l'ai pas vu, et donc je vous mentirais si je vous disais autre chose, c'est vraiment une réussite. C'est dans les salles à partir du 9 décembre prochain, et nous vous en reparlerons sur la Franco Latina, et probablement que si vous êtes sage, nous pourrons même avoir la possibilité de vous inviter. Le film s'appelle Guacho, il sort donc le 9 décembre prochain. Et c'est donc 19 novembre, 20 décembre, la durée de la nébuleuse vie de José Miranda. Et ça se joue de quel jour à quel jour ?
Ça se joue le jeudi, vendredi, samedi à 20h30 et le dimanche à 18h.
D'accord, du jeudi au dimanche alors.
Du jeudi au dimanche, oui.
Alors, il y avait quelque chose qui m'a frappé en lisant un peu le scénario que j'ai lu un peu et, en détail, et puis surtout un commentaire où on disait que c'est une pièce qui est un procès à l'art engagé, et surtout il y avait, et ce qui m'a frappé chez Oscar, qui est un homme qui, on le sait, c'est un acteur chilien qui a fait le camp de concentration, qui a subi de plein fouet un peu la dictature, qui a été donc un type toujours très engagé. Et pourtant, là, il parle du fait que parler finalement d'art engagé, c'est un pléonasme, et que l'art est par définition est engagé toujours, dans n'importe quelle manifestation d'art. Est-ce que la pièce, elle est une sorte de retour sur quelques façons de voir? Est-ce que c'est une révision? Est-ce que l'âge venant, on regarde les choses autrement?
C'est-à-dire qu'il me semble que l'art est toujours engagé s'il pose des questions, s'il ouvre des portes inhabituelles, s'il fait que finalement, le spectateur est amené à s'interroger sur certaines questions qui le concernent, hein, qui concernent sa vie. Là, je pense que la pièce « La nébuleuse vie de José Miranda » est une pièce à la fois métaphysique, parce qu'elle pose la question de la place de l'être humain dans le monde, dans l'univers même. Par exemple, tout le procès de la mère Teresa est extrêmement intéressant parce que elle dit qu'elle ne croit pas vraiment en la vie éternelle. Donc c'est déjà très subversif de la part du religieux de dire ça. C'est Oscar qui lui fait dire ça. Hein. Mm-hmm. C'est pas la vraie mère Teresa qui a dit ça, mais on s'attend à un autre discours de sa part. Et donc ça éveille évidemment l'attention du public lorsqu'elle dit ça. Et elle dit que si elle a fait semblant de croire, c'est parce que les gens avaient besoin de croire en quelque chose. Et je pense que ça, c'est une vérité très profonde. Nous avons besoin de croire. En ce sens, la pièce est assez voltairienne, disons.
Mm-hmm.
C'est Voltaire qui ne croyait pas, et puis il disait que si Dieu n'existe pas, il faut l'inventer.
Mm-hmm.
C'est la même chose, là. Le diable n'est pas un diable à la façon de l'Église catholique. C'est un diable très cynique qui remet en question toutes les croyances du personnage de José Miranda qui serait un auteur engagé. Donc, il pose la question de cet engagement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'on dit « El pueblo unido », ce que dit toujours Oscar Castro dans toutes ses pièces ?
Mm-hmm.
Est-ce que ça a un sens, ça ? Est-ce que le peuple est uni ? Est-ce que ce n'est pas seulement une illusion de ce moment historique ? Voilà. Alors, ce n'est pas pour dire que le peuple n'est pas uni, mais c'est pour se faire poser la question. Et je crois que là, effectivement...
C'est les hommes à la question qui posaient surtout, j'imagine, dans l'état d'esprit qu'il y a en général les diables pour poser des questions, et qui contient presque la réponse, non ?
Bien sûr, qui contient la réponse. Et qu'on a envie que le peuple soit uni, et en même temps, il n'est pas uni. Alors, c'est quoi être un poète engagé ? C'est de vouloir qu'il y ait la révolution, mais pour qu'il y ait la révolution, il faudrait d'abord que les gens se rassemblent autour d'un concept donné. Voilà, donc ça pose ces questions, c'est peut-être des questions dans l'air du temps, parce qu'on se les pose un peu partout. Hein. Peut-être moins en Amérique latine, parce que peut-être aussi en Amérique latine, où il y a beaucoup de gouvernements de gauche, comme on le sait, et c'est ça qui est intéressant. La situation en Amérique latine est extrêmement vivante sur le point politique, avec des gens comme Evo Morales, comme Hugo Chavez, comme Correa en Équateur. Donc, ils existent, ces mouvements et cette volonté sociale. Mais est-ce que c'est une réussite ? Voilà, c'est une question. Hein. Il y a pas de toute manière, le théâtre n'apporte pas de réponse. Le théâtre n'apporte que des questions aux spectateurs. Et d'une certaine manière, Oscar Castro, avec cette pièce, creuse la question de l'engagement.
Et vous, est-ce que vous, l'acteur, ça vous convient le rôle, non plus de l'avocat du diable, mais du diable lui-même, carrément, qui fait son, l'avocat de son scepticisme, de sa mécréance.
C'est un rôle génial, hein, c'est toujours génial. C'est beaucoup plus intéressant de jouer Méphistophélès que de jouer...
L'ange Saint-Gabriel.
Oui, c'est ça. Méphistophélès, c'est le plus grand personnage de théâtre qui existe. Donc c'est un plaisir déjà de jouer le diable. Et oui, c'est un plaisir de poser des questions qui dérangent justement et qui sont à contre-courant de ce qu'on voudrait soi-même, parce qu'on voudrait... qu'il existe quelque chose en quoi on puisse croire. Mm-hmm. Soit la révolution, soit Dieu, soit je ne sais pas quoi. Et puis, on se rend compte que ce n'est pas si facile que ça et que ce n'est pas si idyllique que ça lorsque ça existe non plus. Là, c'est vrai qu'en France, en ce moment, il est beaucoup question d'insurrection, de désobéissance civile. Il y a tout un mouvement comme ça.
Mm-hmm.
On a envie que ces mouvements puissent changer quelque chose et en même temps, ces mouvements sont aussi très dangereux parce que c'est explosif. Personne n'a envie qu'il y ait une insurrection. Lorsqu'il y a une insurrection, une révolution, il y a des morts, il y a des têtes qui sont tranchées, il y a des clans qui se mettent les uns contre les autres, etc. Et en même temps, on a envie que les choses bougent et changent.
Mmh.
Et il me semble que la pièce parle aussi de ça. Parle aussi de ça à rebrousse-poil.
À propos de « Je ne suis pas celle que vous croyez », je vous propose d'écouter cette fois-ci un groupe chilien. Le groupe s'appelle La Mano Ajena. Et ils ne font pas de la musique chilienne. Ils interprètent un thème colombien. C'est un rythme colombien, c'est la cumbia. Mais ce n'est pas n'importe quelle cumbia. C'est une cumbia klezmer. We'll be right back. C'est donc une cumbia klezmer que nous écoutions, interprétée par ce groupe chilien qui s'appelle La Mano Ajena, que je vous conseille aussi de découvrir. Tout comme il faudra donc venir au théâtre Aleph à Ivry, et c'est, on va vous donner les coordonnées, et c'est le 5 de la rue Quai-sur-Pollon, c'est ça?
C'est ça, oui.
Ouais. Voilà, et c'est au métro...
Pierre et Marie Curie.
Pierre et Marie Curie, voilà, ou RER aussi...
Le RER, c'est Ivry.
Ivry, voilà. 5 rue Christophe Colomb à Ivry, c'est juste à côté de Paris. Et vous pouvez évidemment aller chercher après tous les détails sur l'agenda franco-latine. Et puis, vous me disiez, hors antenne, comme on dit, qu'il faut aller absolument voir les... décor de la pièce, entre autres choses.
Oui, oui, c'est Yves Collet qui a fait le décor. C'est le scénographe habituel du Théâtre des Quartiers d'Ivry. Et c'est vrai qu'il a complètement transformé la salle du Théâtre Aleph. Bon, il y a toujours le foyer du Théâtre Aleph qui est extrêmement agréable. Hein. On se croit en Amérique latine, là, vraiment. Mm-hmm. Et ils font des empanadas, du vin chilien, etc. Non, il y a une très, très belle ambiance dans le lieu lui-même. Et ensuite, la salle est complètement transformée. Et Yves Collet a demandé à de jeunes peintres... taggeurs qui font des graffitis, de faire tout un décor en noir et blanc et en graffiti. Et donc, évidemment, ça transforme l'espace. Ça fait que c'est une station de métro pas très conventionnelle, mais extrêmement esthétique. Et c'est très, très fort. C'est très beau ce qu'on fait comme peinture, ces jeunes peintres, hein, avec leurs bombes et tout ça, et puis tous les projecteurs sont à vue, sont tout blancs, tout en blanc. Mmh. Et ça donne tout de suite une ambiance fantastique dans laquelle le diable et les diablesses peuvent apparaître. et le public, comme la salle n'est pas très grande, donc il faut réserver, hein, pour y aller, c'est mieux. Le spectateur est immédiatement plongé dans cette ambiance fantasmagorique.
Lui, c'est le décorateur du Théâtre des Quartiers d'Ivry.
Oui, oui, oui. Alors qu'il a aussi fait le décor d'un autre spectacle qui se joue en ce moment au Théâtre des Quartiers d'Ivry, qui est l'illusion comique de Corneille, mise en scène par Elisabeth Chailloux, qui est la co-directrice avec moi du Théâtre des Quartiers d'Ivry.
Et là, les décors sont plus classiques ?
Oui, peut-être un peu, oui. Mais c'est un décor tout en transparence, mm-hmm. Et c'est important pour l'illusion comique parce qu'il y a des apparitions, des disparitions. C'est un très beau décor aussi, oui. Et une très belle pièce, hein. L'illusion comique, c'est une des plus grandes pièces du répertoire français.
Vous, au Théâtre des Quartiers d'Ivry, vous alternez de pièces modernes, des pièces classiques?
Oui, oui, oui. On fait en général 3 classiques dans la saison. Donc cette année, il y en aura 4 cette année exceptionnellement. L'illusion comique... qui se joue jusqu'au 3 décembre. Ensuite, au mois de janvier, il y aura Le Roi Lear et Richard III de Shakespeare, mise en scène par Jean-Claude Fall. Et au mois de mai, il y aura La Cagnotte, une pièce de La Biche que j'ai montée. Et puis au studio Casanova, donc aussi à Ivry. Et il y a les textes contemporains, hein, tout un programme de textes à découvrir.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne chômez pas, Adelakim.
Comment, pardon?
Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne chômez pas.
Non, mais le théâtre, ça marche bien. Hein. Les salles sont pleines. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de pratiquer du théâtre amateur très souvent. Et moi, ça me fait toujours plaisir lorsque je vais soit dans notre théâtre, évidemment, mais aussi voir d'autres spectacles à Paris. C'est toujours plein. En province, c'est toujours plein. Donc, je pense que le théâtre va très bien. Et apparemment, les gens ont envie de ce dialogue avec les gens qui fabriquent le théâtre. Les spectateurs sont là et ils sont présents et ils sont demandeurs, hein, du dialogue théâtral.
Et vous êtes invité donc à remplir le Théâtre Aleph jusqu'au 20 décembre autour de la nébuleuse vie de José Miranda. Adela Kim, merci d'être venu.
Merci pour votre invitation.
Ce thème s'appelle Apertura. En fait, on aurait dû l'écouter avant, mais je trouve qu'il est bien pour partir. C'est la fameuse Apertura du film sur le Che Guevara, de la musique de Gustavo Santaolalla, l'Argentin. Et c'est avec ça que nous allons vous dire à la prochaine. Depuis la Maison de l'Amérique latine à Paris, Bertrand Boeuf était comme d'habitude à la réalisation. Il y avait avec nous aujourd'hui Adela Kim. Et puis, donc, on vous dit nous tous. A bientôt pour un nouveau boulevard franco-latino. Ciao.
La franco-latina.